Une lecture, s'il vous plaît, dans le livre de l'Exode. C'est l'Ancien Testament, le livre de l'Exode. Le chapitre 15. Et le verset 22. Voilà. Livre de l'Exode, chapitre 15, verset 22. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse, en disant « Que boirons-nous ? » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Amen. Voilà, je crois qu'il faut d'abord fixer un petit peu le cadre, le contexte de ce récit, de cet épisode de l'histoire du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël avait été esclave en Égypte pendant de longues années, des siècles en fait. Et par l'intervention puissante de Dieu, sous la conduite de Moïse, voilà que maintenant le peuple avait été délivré de l'esclavage. Et puis il y avait eu ce fait remarquable, n'est-ce pas ? Dieu avait fendu la mer Rouge, et le peuple avait passé au travers des flots, tandis que les Égyptiens qui en avaient fait la tentative s'étaient fait engloutir par les flots. Et donc, voilà, ils ont chanté, ils ont même dansé, nous dit l'Écriture, ils ont loué Dieu pour ce miracle que Dieu leur avait accordé. Et puis voilà, après ce remarquable événement, eh bien, en route vers le pays promis, Canaan, n'est-ce pas ? Mais entre le pays d'Égypte, d'où il venait de sortir, et le pays promis, le pays du Canaan, il y a toujours d'ailleurs, ce terrible désert du Sinaï. Et le texte nous dit que après 3 jours de marche, plus d'eau, panne sèche. Hein, et vous savez, dans le désert, ben il n'y a pas Coca-Cola réfrigéré, ni rien de tout ça. Non, non. Après 3 jours de marche dans le désert, plus d'eau. Vous imaginez un petit peu, oh là là là, les enfants, la marmaille, ça devait brailler de tous les côtés, les bœufs, les brebis, parce qu'il y avait toute la semaine là qui suivait, hein. Ça devait beugler de à qui me mieux. Alors voilà, ils sont dans une situation extrêmement difficile, périlleuse même, et puis ils arrivent, voilà, à ce qui semble être une oasis, Mara, de l'eau, enfin. Et puis quand les premiers, après une course effrénée, eh bien portent l'eau à leur bouche, ah, l'eau était amère. D'ailleurs, Mara, ça veut dire amertume. Amertume. Totalement impropre à la consommation, l'eau de Mara. Polluée, infecte, imbuvable. Quelle déception ! Vous voyez ? Ils avaient espéré, quand ils avaient vu cette masse d'eau-là, à quelques dizaines de mètres. Ça y est, on va pouvoir boire. Et puis, ah, il fallait se rendre à l'évidence, déception. Déception sur toute la ligne. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a pas d'eau, on meurt de soif. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous savez, dans la vie, c'est un petit peu pareil. Non? Vous ne trouvez pas? Qui c'est qui n'a jamais été déçu ici? Si vous levez la main, je vous rassure, ça vous arrivera prochainement. Hein. Oui, dans la vie, il y a souvent d'amères déceptions. Alors, on va énumérer quelques-unes. Je ne pense pas les épuiser toutes. Hein. Déception, par exemple, quand lorsque la guérison du mal dont on souffre n'a pas eu lieu, malgré tous les traitements médicaux qu'on nous a appliqués, peut-être les interventions chirurgicales. On a tout essayé, n'est-ce pas, cette thérapie, et puis une autre, ce médicament, et puis un autre. Et on a été parfois de spécialiste en spécialiste, etc., etc. Et la maladie résiste. Alors des fois, on espère que, voilà, un nouveau médicament, un nouveau traitement, ça vient d'Amérique. Alors si ça vient d'Amérique, c'est formidable. Hein, et puis ça ne marche pas. Les autres, oui, et pas moi. Ah, vous savez, c'est vieux comme le monde, ça. La parole de Dieu nous parle de cette femme qui était atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle devait être dans un état pitoyable de faiblesse, hein, terriblement anémiée, vous voyez. Et le texte précise dans l'évangile de Marc, cette femme, elle avait dépensé tout son bien. On peut penser qu'elle avait les moyens financiers pour se permettre de consulter les médecins, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de sécurité sociale. Hein. Alors, si tu avais 4 sous, tu pouvais te faire soigner, sinon... Mais elle avait un petit pécule, mais elle avait tout dépensé, la malheureuse, espérant que, entre les mains de ses médecins ou de ses autres, à l'époque, c'était plus des charlatans qu'autre chose, hein, elle allait trouver la guérison. Et la Bible dit même qu'elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Je ne sais pas ce qu'ils avaient fabriqué sur son corps, mais ça avait été une catastrophe. Et le texte précise, elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Vous voyez, pas de guérison, mais même pas de soulagement. Était allée plutôt en empirant. Voilà. Alors, on peut imaginer combien elle devait être déçue. Déçue dans son attente, déçue dans son espoir, déçue dans son désir. Et c'est normal de recevoir la guérison, n'est-ce pas? Parce que généralement, quelqu'un qui est malade, qui souffre, il a envie d'être guéri. Hein, voilà. Déception, on peut la connaître aussi de la part d'amis qui nous ont laissé tomber ou même trahis alors que nous pensions pouvoir compter sur eux. C'est terriblement amer de connaître une expérience de ce genre. Je ne sais pas, hein, peut-être vous avez vécu quelque chose comme ça. Quelqu'un qui vous aviez confiance, quelqu'un de la famille, un proche, ou quelqu'un que vous avez fréquenté, vous pensiez que c'était une amitié sincère, profonde, durable, vous étiez prêt à lui faire confiance, c'est-à-dire vous lui avez fait confiance, et puis des fois ça se passe pas comme ça, hein. On s'aperçoit que notre confiance était mal placée, qu'on s'est trompé. Mais ça aussi, c'est vieux comme le monde. C'est une mésaventure semblable qui est arrivée à David, vous savez, dans un psaume. Tenez, vous pouvez le lire avec moi, le psaume 55. Hein, au verset 13, voici ce que dit David. Voilà, psaume 55, verset 13. Il dit, ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Vous voyez, il y a des gens, on n'a rien à attendre d'eux. On sait que ils sont méchants, alors on s'attend, on n'est pas déçu, parce que on sait que c'est leur état d'esprit, on n'attend rien de bon. Mais David dit, voilà, ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai, je m'y ferai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal. Toi, mon confident et mon ami. Voilà. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Vous voyez, hein? C'était, semble-t-il, l'autre, lui aussi un croyant. Et avec David, David pensait que il était sincère. Et puis, il s'est passé des choses qu'il n'entre pas dans les détails. Mais enfin, ce qu'il nous dit là, c'est qu'il a vécu au niveau de l'amitié une terrible déception. Parfois, il y a des gens qui ont dit « Je ne ferai plus jamais confiance à personne. » On ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas vivre comme ça. Déception parce que un ami nous a trahis. Un ami nous a laissé tomber. Au moment où nous avions peut-être le plus besoin de lui, il s'est détourné de nous, peut-être même il s'est retourné contre nous. C'est ce qui est arrivé à David. Il s'est opposé à lui. Déception, on peut la connaître aussi dans le domaine sentimental, affectif. On ne lira pas le texte parce qu'il est archi connu. La Samaritaine. cette femme que Jésus a rencontrée au bord d'un puits un certain jour, hein, voilà, à cinq reprises, elle avait été mariée. On ne peut pas dire qu'elle manquait de persévérance, celle-là, hein. Mais, à cinq reprises, je pense qu'elle avait dû espérer rencontrer l'amour de sa vie. Voilà, l'homme de ma vie. Et puis, cinq fois, ça avait été une triste affaire, ça avait mal tourné. Alors, elle vivait avec un sixième homme, mais cette fois, chat et flodé, vous connaissez la suite, elle ne s'était pas engagée, elle ne s'était pas mariée, vous voyez, se disant, mais peut-être qu'une sixième fois, je risque d'être trompé, désabusé, désillusionné dans mon attente, alors prudence. Et je pense que quand Jésus l'a rencontrée là au bord du puits, eh bien c'était une femme au cœur brisé, parce que ça avait été une catastrophe, sa vie sentimentale, vous voyez, une catastrophe dans notre famille, hein. Nous avons un homme, maintenant il est décédé, mais vous voyez, pourtant c'était un homme brillant, parce que il n'y a pas que les gros bêtas qui se font avoir dans le domaine affectif, vous savez. Hein, cet homme, c'était un juge. Je crois qu'il a fini président de la cour d'appel. Bon. Mais trois fois de suite, il s'est marié, démarié, remarié. Et chaque fois, mes amis, ça a été une catastrophe. Il y a laissé des plumes, si je puis dire, sur le plan financier, mais aussi quelque part sur le plan affectif. Et puis il y a eu les enfants, et puis. Et voilà, cette femme, vous voyez, au bord du puits, heureusement que Jésus est passé par là. Hein? Il arrive toujours au bon moment, hein, le Seigneur. Hein? Voilà. Je ne sais pas, moi, si, peut-être si Jésus était venu quand elle était avec son premier mari, elle aurait dit non, pas besoin, je suis heureuse, c'est la lune de miel. Mais il vient au bon moment. Quand on est au bout du rouleau, vous voyez, parce qu'elle est au bout du rouleau. Hein, le texte de l'évangile de Jean, chapitre 4, nous dit que c'était midi. En Orient, il fait chaud. C'est pas à midi qu'on va chercher de l'eau, c'est le soir. Que les filles de la ville vont avec la cruche sur l'épaule, pendant que les hommes palabrent, hein, ils vont puiser. Voilà. Mais elle, pourquoi elle vient à midi? Pour être seule. Parce qu'elle ne veut pas voir les autres, parce que les commères du village, elles parlent, vous savez, celle-là, elle a été mariée 5 fois, elle vit avec un sixième homme, là. Alors pour éviter ça, mais ce jour-là, au puits, il y a quelqu'un, un juif en plus. Bouh, elle n'aime pas les juifs. Et ce juif lui parle, il ose. Donne-moi à boire. Comment? Scandale. Toi qui es juif, tu oses m'adresser. Toi qui es juif, on sent là un mépris. Tu oses m'adresser la parole à moi qui suis une femme samaritaine. Heureusement que Jésus ne se vexe pas. Hein. J'aurais pu dire, si ça avait été peut-être vous ou moi, bah, puisque c'est comme ça, hein, débrouille-toi. Mais non, pas Jésus. Quel amour, hein? Donne-moi à boire. Si tu connaissais le don de Dieu, celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, il t'aurait donné de l'eau vivée. Quelque part, vous voyez, cette parole était bien sûr inspirée par le Saint-Esprit, ça a fait tilt dans l'esprit de cette femme. Alors elle n'appelle plus le juif, elle lui dit, Seigneur. Ça dure, en fait, monsieur, parce que quand on dit monsieur, c'est mon Seigneur, c'est tout. Vous voyez, ça s'élève un petit peu. Puis après, Jésus lui dit, tiens, par hasard, là, va chercher ton mari, j'ai pas de mari. Je ne sais pas si elle a rougi. Jésus lui a dit, tu as raison, tu en as eu 5, celui avec lequel tu vis, c'est pas ton mari. Je vois que tu es prophète. Vous notez, le juif, le monsieur, le prophète. Et pour finir, elle finit par dire, ah, dans ma religion, on me dit que le Messie viendra et il nous annoncera, c'est-à-dire le Christ, toute chose. Et Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Et mes amis, elle l'a pas pris pour un fou. Elle l'a cru, parce qu'elle a été au village, elle a laissé sa cruche. Elle en a oublié ce qu'elle était venue faire. Hein. Tellement elle était bouleversée, elle est allée au village. Elle dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ. Vous voyez, le juif, le monsieur, le prophète,
le Messie, le Sauveur, quoi.
Hein? Et c'est comme ça qu'elle a pu sortir de sa déception, parce que, on a chanté tout à l'heure, elle a découvert l'amour, alléluia, le vrai, mais l'amour de Dieu. Oh, bien sûr que c'est légitime de vouloir aussi connaître un amour humain, rencontrer un homme, une femme avec lequel, laquelle on sera heureux, heureuse. Mais par-dessus tout, mes amis, l'amour de Dieu, il est capable de guérir
toutes les blessures les plus profondes. Alléluia. En tout cas, il l'a fait pour la Samaritaine. Il peut le faire aussi pour vous cet après-midi.
On peut connaître la déception dans le domaine professionnel. Hein? Parce que le Seigneur ne se désintéresse pas de ça. Regardez Pierre. Quand Jésus l'a appelé au ministère d'apôtre, hein? Il était encore marin-pêcheur. Jésus lui dit, avance en pleine eau. Jette tes filets pour pêcher. Et il a ce constat, Pierre. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Échec complet. Puis ce n'était pas un pêcheur du dimanche, hein. C'était son gagne-pain. Donc pas de pêche, pas de sous. Pas de sous, la famille, comment elle va vivre? Parce qu'il était marié, certainement, on peut le penser, il avait des enfants aussi. C'était dur. Déception, échec complet, malgré les efforts, les tentatives répétées. Et ça aussi, on peut le connaître dans la vie, échec dans les études. Échec dans le domaine professionnel, le chômage, quelle déception, quelle désillusion, quel drame. Et Jésus est passé par là aussi. Hein. Jette tes filets pour pêcher. Et Pierre a eu suffisamment de foi pour le faire. Vous savez, c'est un miracle que Jésus a fait. Pourquoi? Pourquoi ils pêchaient la nuit, les pêcheurs? Parce que la nuit, les poissons, ils remontent à la surface. Tandis que le jour, la chaleur des eaux en surface les amène à chercher la fraîcheur dans la profondeur des eaux. Donc, normalement, rationnellement, l'expérience de Pierre, de marin-pêcheur, lui disait, c'est pas possible qu'à cet endroit, à cette heure-ci, il y ait du poisson. Mais avec Dieu, ce qui est impossible devient possible. Et Jésus savait que là, maintenant et ici, il y avait un banc de poissons énorme. Et ils ont rempli les filets, plein de filets, une barque, deux barques, jusqu'au rabord. Alléluia. Échec était changé en réussite. Béni soit Dieu. Vous voyez, la déception était ôtée du cœur de Pierre. Puis vous savez, on peut connaître la déception dans le domaine de la santé physique. Entre parenthèses, la femme, la perte de sang. Hein.
Elle a été guérie, gloire à Dieu, hein.
Guérie par Jésus, en désespoir de cause. Elle est venue vers lui, ayant entendu parler de Jésus, dit la Bible. Ah, elle vient dans la foule par derrière. Et oui, parce que non seulement il y avait le problème de santé physique, mais rituellement, par rapport à sa religion israélite, c'était une femme impure. Vous voyez, donc, le tableau était complet. La souffrance physique, quelque part, la gêne, la honte de soi, je suis une femme impure. C'est pour ça qu'elle est venue par derrière. Elle n'avait pas le droit de toucher un saint homme de Dieu comme était Jésus. Mais ce que la loi lui interdisait, la foi le lui a permis. Et elle a été guérie. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Et vous savez, oui, déception dans le domaine de la santé physique, déception de la part des amis, déception sentimentale, déception professionnelle. Et puis, c'est terrible, et peut-être c'est le pire. On arrive même à se décevoir soi-même. C'est vrai ou pas? Ben oui, on arrive même à se décevoir soi-même, à se prendre soi-même en défaut. Et quand ça arrive, on se maudit intérieurement. Se dit que tu es un misérable. On s'en veut des fois que c'est pas possible, vous voyez? Tenez, regardez. Matthieu chapitre 26, verset 75. Matthieu chapitre 26, et le verset, on va lire au verset 69, Matthieu 26, 69. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment, « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dirent à Pierre, « Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Hein ? Il avait l'accent de Galilée. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, vous vous rendez compte ? Je ne connais pas cet homme. Aussitôt, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. Avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Pourquoi ? Parce qu'il était déçu de lui-même. Quelques heures auparavant, c'est pas vieux, il avait affirmé, « Seigneur, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. » Il me semble le voir, oui, la main sur le cœur, hein, une déclaration fracassante. Les autres peuvent te laisser tomber, mais moi, et Jésus lui avait dit, « Pierre, avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. » Et la parole de Dieu nous dit qu'il reprit encore plus fortement, vous voyez, il a osé contredire le Seigneur. Si seulement il était tombé au genou du Seigneur, en disant, « Seigneur, que pareille chose n'arrive pas. » Mais là, il était tellement sûr de lui qu'il a repris plus fortement, « Je ne te renierai pas. » Et puis, nous avons lu le texte. Jésus fut arrêté. Voilà, Pierre y suit de loin. Il rentre dans la cour du souverain sacrificateur, là où on procède au jugement du Seigneur, n'est-ce pas ? Et Pierre, il se trouve au milieu de ces gens qui ne sont pas très sympathiques, enfin, qui n'ont pas de sympathie ni pour lui, ni pour Jésus. Et on le reconnaît. Tu étais avec Jésus de Nazareth. Tu es un des disciples de cet homme. Je ne connais pas cet homme. Une fois, deux fois, trois fois, comme il l'avait dit. Et le coq a chanté. Tout à coup, tilt, la mémoire lui est revenue. La mémoire lui est revenue. Il s'est souvenu de la parole que Jésus avait dite. Avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. Le texte dit, étant sorti, il pleura amèrement. C'était pas une fillette, hein. C'était un homme, Pierre. Quelque part même, c'était un dur. Mais là, voyez, son cœur a été brisé. Pourquoi ? Parce qu'il touchait du doigt sa misère intérieure, sa lâcheté, sa faiblesse, sa vanité, son orgueil, sa folie. Et il devait se dire, mais c'est pas possible que j'en sois arrivé là. Quelle déception quant à lui-même. Comment ai-je pu faire une chose pareille? Je ne m'en serais pas cru capable. Mais là, c'est bien ce que j'ai fait. L'histoire de Pierre, on peut la connaître aussi sous d'autres formes. Et se décevoir soi-même. Alors, il y a la déception. Il y a le dégoût. Il y a la honte de soi-même. Il y a la culpabilité, il y a le remords. Une jeune femme me disait, par les moments où elle était passée, elle me disait, j'osais plus me regarder dans la glace. Et je ne sais pas, hein, il y a peut-être au milieu de nous quelqu'un qui de loin ou de près regarde à ça. Mais le Seigneur y traite aussi ce problème. Alléluia. Parce que les choses n'en sont pas restées là avec Pierre, hein. Ils se sont retrouvés. Voilà, la crucifixion, mais aussi la résurrection. Il y a un passage, moi, j'aime ce passage. Évangile de Jean, chapitre 21. Jésus qui prépare le petit déjeuner, c'est pas beau ça ? La pêche miraculeuse, la deuxième cette fois. Et puis ils arrivent là, sur le bord, la plage, hein, me semble y être, vous voyez, des charbons allumés, du poisson, du pain, puis... Il fait la tournée, Jésus, il leur offre le poisson, venez manger. Et puis quand ils se sont bien sustentés, Jésus entreprend Pierre. M'aimes-tu ? Mais c'est évident, je t'aime. une fois, deux fois, même tu, Pierre. Mais bien sûr, pourquoi il me demande ça? Et puis, trois fois, et là, et l'Écriture dit qu'il fut attristé. Il fallait qu'il le soit. Il fallait qu'il connaisse la conviction de péché pour bénéficier du pardon. Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus ne lui a pas dit, allez, va. Dégage, tu ne m'intéresses pas. Tu m'as trahi, tu m'as renié, je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Passe ton chemin. Non, ça, ce n'est pas Jésus. Il accorde toujours une autre chance à ceux qui se repentent, à ceux qui viennent à lui de tout leur cœur, à ceux qui lui disent, regarde, je t'ai déçu et je me suis déçu de moi-même. Je suis coupable, je suis pécheur, c'est vrai, mais fais-moi grâce. Et il fait grâce, et Pierre, eh bien le Seigneur l'a réhabilité, et on connaît l'apôtre qu'il fut, et il a terminé sa vie en glorifiant le Seigneur, même au travers de sa mort. Alléluia. Alors revenons à notre histoire. Dans le texte là, on est loin de Mara là, hein, mais ça fait rien, on y revient. Dans le texte, Moïse, pourtant c'était Moïse, il ne savait plus que faire. Vous voyez, il faut toujours un coupable, un responsable. Alors ils étaient là. Pressant Moïse, c'est toi qui nous as conduits ici. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On meurt de soif. Et Moïse, il dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Comment on va s'en sortir de cette histoire? Et Dieu n'est jamais à court de solution. Et il lui a indiqué un bois, un simple bois, tout sec, tout mort qu'il avait l'air. Il lui dit, jette-le dans l'eau. Et l'eau deviendra douce. Et mes amis, le miracle a lieu. Alors moi, j'ai lu des commentaires dans lesquels il paraît que dans le désert, il y a un soi-disant arbre qui pousse et qui rend l'eau amère douce. Taratata, c'est des histoires. C'est pas un fait naturel qui s'est produit là. C'est un fait surnaturel, miraculeux. C'est Dieu qui l'a fait, n'est-ce pas? Il lui a plu de le faire au travers de ce bois, mais c'est la puissance de Dieu qui s'est manifestée. Et gloire à Dieu, l'eau amère est devenue douce, hein? Et le peuple a pu boire, les enfants, les vieillards, les bœufs, les brebis, les moutons, les chèvres, tout ce que vous voulez. Ils ont pu se désaltérer et ils sont sortis de cette situation d'impasse dans laquelle ils se trouvaient, de cette terrible déception. Ce bois, dites, ce bois, moi, il m'en rappelle un autre. Le bois de la croix. Le bois de la croix. Le bois de la croix, non pas que le bois de la croix en lui-même soit miraculeux. Vous savez, il y a eu une époque au Moyen-Âge, certains ont prétendu avoir retrouvé la croix de Jésus. Et alors, c'est pas la croix en elle-même qui compte, c'est l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix. Et quand la Bible fait référence à la croix, elle ne met pas l'accent sur l'objet en tant que lui-même, sur le gibet, la pontance, mais sur l'œuvre que Christ, il est mort pour nous, n'est-ce pas? C'est la solution de Dieu à toutes nos déceptions, à toutes nos amertumes. Sur la croix, nous dit la Bible, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies, lui par les meurtrissures, les blessures duquel vous avez été guéri. Voilà, ça comporte la guérison du corps, mais ça comporte aussi la guérison de l'âme, et ça comporte le pardon des péchés. Oui, il a pris sur lui, Jésus, toutes nos déceptions, et il nous offre la guérison physique, morale, affective et spirituelle. La condition, c'est quoi? La foi. Quand Dieu a dit à Moïse, prends ce bois, jette l'eau dans l'eau, et l'eau amère deviendra douce. Si Moïse avait dit, ça ne marchera jamais. C'est même pas la peine de tenter le coup, c'est inutile. Eh bien, il serait resté dans cette situation, il serait mort de soif, ces pauvres gens. Mais Moïse a cru à la parole de Dieu, et la parole s'est accomplie. Qu'est-ce que c'est la foi? La foi, c'est la confiance du cœur. La foi, c'est la confiance du cœur. Cette confiance qui nous amène à apporter notre vie avec toutes ses déceptions et ses péchés aussi, pour que lui-même, alléluia, change l'amertume en douceur. Gloire à Dieu. Peut-être que votre vie, elle est empoisonnée par l'amertume qui vous tenaille. Cette amertume, elle provient des déceptions que vous avez éprouvées. Faut pas rester comme ça. Faut pas rester comme ça. Cet après-midi, le Seigneur te propose de changer dans ta vie
l'amertume en douceur. Alors il faut apporter
ton cœur, ta vie, et lui dire, Seigneur, fais cette œuvre en moi. Tout ce qui m'empoisonne, tout ce qui me pourrit la vie, Seigneur, que j'en sois débarrassé. Peut-être que extérieurement, la situation ne va pas changer, tout au moins tout de suite, mais intérieurement,
tout peut déjà changer. Instantanément.
Et l'amertume, être changé en douceur. Vous pouvez sortir de ce lieu avec la paix de Dieu dans votre cœur. La paix de Dieu. C'est bon, la paix de Dieu. C'est bon, la présence du Seigneur. J'aime la présence du Seigneur. J'aime la présence du Seigneur. Il y a quelques jours, nous étions, et Kevin était là aussi, dans une rencontre pastorale. C'était un lundi matin, et comme dans toutes les rencontres pastorales, on a eu un moment de prière. Bon, c'était pas transcendant, mais moi, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. La présence de Dieu est venue. Mais c'était bon. Oh, Seigneur, j'ai su après pourquoi. Parce que dans les heures et les jours qui ont suivi, j'ai été confronté à certaines difficultés qui ont fait que j'avais besoin que le Seigneur, quelque part, me dise, je suis là. Te fais pas de soucis, mon gars, même si c'est pas facile, je suis là. Et c'est ce qu'il veut faire aussi, c'est pas que pour moi, parce que je suis pasteur, c'est pas une médaille qu'on porte là comme ça, pasteur, hein, privilégié de Dieu. Non, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour lui, c'est pour l'autre. Il faut venir au Seigneur dans la foi.
Voulez-vous le faire cet après-midi? On se recueille quelques instants.
Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce.